la paix. Il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et merci de votre fidélité à l'écoute de Radio de la Paix. Bienvenue à ce bulletin de la mi-journée. Les parlementaires ivoiriens ont reçu hier de leurs homologues français et allemands et de l'Union européenne deux guides pratiques sur l'élaboration des propositions de loi et sur les procédures d'amendement. Vous aurez la réaction de quelques sénateurs et députés ivoiriens. La deuxième revue du programme économique et financier couplée avec la première revue de la facilité de résilience et de durabilité se tient à Abidjan. Sur les raisons de ce rendez-vous à Abidjan, nous écouterons Olaf Oberdesteider. Et puis sur le continent, les régions somaliennes du Puntland et du Somaliland ont refusé ce vendredi la fermeture des consulats éthiopiens sur leur sol, une décision du gouvernement fédéral. On en parle dans cette édition. Dans l'invité de la rédaction ce vendredi, Constant Maïlé s'intéresse au pays de la Teranga avec Ndiaga Sila, l'expert électoral sénégalais. Il sera question de l'élection de Bassirou Faye à la présidence et la nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. C'est tout pour l'essentiel. Le Parlement de Côte d'Ivoire s'est vu remettre hier 4 avril à Yamoussoukro par ses partenaires du Sénat français, du Bundesrat allemand et du projet Interpares de l'Union européenne deux guides pratiques, l'un sur l'élaboration des propositions de loi et l'autre sur les procédures d'amendement. La remise de ces guides a fait place ensuite à la tenue d'un atelier d'appropriation de ces guides. Notre correspondant sur place à Yamoussoukro, Émile Yao, a recueilli les réactions de certains parlementaires qui s'expriment sur l'importance de ces documents.
Kwasi Kofi-Karapoulin, président de la commission de l'évaluation des politiques publiques à l'Assemblée nationale. Un guide, c'est un cheminement. C'est des normes qui sont dedans qu'on doit respecter pour rendre un peu plus, je veux dire, beau le travail qu'on fait. Un travail de qualité ne peut que bénéficier à nous-mêmes d'abord et aux populations que nous représentons ici. Parce que c'est ça qui est le guide. On a chaque fois besoin de se remettre en cause, de revoir les procédures. On ne les connaît pas toujours, on ne les maîtrise pas toujours, mais ces guides viennent pour simplifier ce travail de compréhension, le travail de législation. C'est pourquoi ces guides sont importants pour nous. C'est des livres de poche qu'on consulte pour avancer, pour mieux faire notre travail. Le travail de législation, le travail d'évaluateur et le travail de contrôle de l'action gouvernementale. Tout y est, parce que ce sont les trois grandes fonctions des parlementaires que nous sommes et nous devons avoir donc ces documents qui sont des vademecum pour nous, des règles qu'on respecte pour aller un peu plus dans l'efficacité, dans l'efficience et aussi dans la pertinence des travaux qu'on mène à l'Assemblée nationale et au Sénat ivoirien.
Vous écoutez successivement Kwasi Kofi-Krapolin, président de la commission des évaluations des politiques publiques à l'Assemblée nationale, et le sénateur Bakary Ouattara, sénateur et président de la commission des évaluations des politiques publiques au Sénat. Parlons de la croissance économique de la Côte d'Ivoire, elle est soutenue à 6,5% en 2023, après 6,2% en 2022 et l'inflation a été contenue à 4,4% en 2023. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Finances et du Budget, Adama Koulibaly, le 2 avril dernier à Abidjan, à l'ouverture de la deuxième revue du programme économique et financier PEF, couplée avec la première revue de la facilité de résilience et de durabilité FRD, dans le cadre de la mission du Fonds monétaire international dans le pays. Et donc, conformément à ces différents programmes, sinon aux programmes économiques et financiers, le FMI procède régulièrement à des consultations bilatérales avec la Côte d'Ivoire. Et c'est dans ce cadre que la deuxième revue du programme économique et financier couplé avec la première revue de la facilité de résilience et de durabilité se tient, a expliqué Olaf Oterobørdeste, le chef de la mission du FMI.
Vous avez travaillé sur la demande de la facilité FRD et on a en même temps conclu ces négociations. Et c'était un très très bon travail. Cette mission a pour objectif de faire la première revue de ce programme au titre de la FRD, mais aussi la deuxième revue du programme de stabilisation macroéconomique est financé au titre de la facilité élargie de crédit. Les deux programmes apportent un soutien financier à la Côte d'Ivoire d'environ 4,8 milliards de dollars EU. Et c'est l'engagement le plus élevé du fonds en ce moment en Afrique subsaharienne.
À l'instant, Olaf Utero-Burderstad, le chef de mission du Fonds monétaire international. Et puis la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique organise du 2 au 5 avril 2024 à Yamoussoukro sa revue de direction au titre du second semestre de la gestion 2023. Cette rencontre a pour objectif principal de dresser le bilan des activités au terme de la gestion 2023 et d'adopter une nouvelle stratégie institutionnelle qui fera l'objet de déclinaisons dans le plan stratégique de développement PSD 2024-2028. Les détails avec Emiliao.
Le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Aoussi Arthur Augustin, a dans son mot d'ouverture situé les enjeux de ces assises de Yamoussoukro.
Notre département ministériel s'est doté d'un plan d'action stratégique pour la période 2024-2025. Il nous appartiendra d'assurer la cohérence entre ce document d'orientation stratégique et le plan stratégique de modernisation et de développement du trésor public qui fera l'objet d'adoption à l'issue de nos travaux. L'ensemble des questions d'intérêt engageant notre administration sera abordé plus en profondeur.
S'inscrivant dans un processus d'amélioration continue entamé par ses prédécesseurs, le tout nouveau directeur général du trésor public entend fixer à ses collaborateurs un nouveau cap. Aoussi Arthur Augustin.
J'entends, à l'occasion de ces assises, soumettre à votre appréciation le projet de document de pilotage stratégique découlant de ma vision de faire du trésor public une administration excellente.
Représentant le ministre des Finances et du Budget, le conseiller technique Memba Konkounseu Antoine a fait part des attentes concernant le trésor public.
Les contributions attendues concernent, premièrement, la mobilisation des ressources intérieures, deuxièmement, la mise en œuvre de la stratégie de réforme des finances publiques et troisièmement, la poursuite de l'exécution de la stratégie de réforme du secteur financier.
Il est à noter qu'en marge de ces assises, une cérémonie sera organisée à l'honneur de l'ancien directeur général du Trésor à Saoré, Conan Jacques. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Fixation du prix du kilo du cacao à 1500 francs CFA, la plateforme ivoirienne pour le cacao durable, PICD, qui regroupe des sociétés coopératives et organisations de la société civile, membres de la PICD, accueille favorablement cette annonce qui va dans le sens de l'amélioration des revenus des producteurs et productrices de cacao et d'un engagement de l'ensemble des parties prenantes. Cependant, elle voudrait renouveler son appel aux autorités pour l'ouverture d'un espace de discussion afin de réfléchir à une solution concertée et durable sur le mécanisme de commercialisation face au nouveau contexte de la filière cacao. Écoutons les explications de Bakary Traoré, membre de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable.
La plateforme a publié une communication en réaction à cette annonce, une communication pour accueillir favorablement cette augmentation de 50% du prix Borchamps, qui était une des demandes de la plateforme dans notre précédente communication. Surtout, nous avons réitéré notre appel au gouvernement pour qu'on puisse ouvrir la réflexion sur notre mécanisme de commercialisation. Quand vous regardez notre mécanisme de commercialisation, il a été pensé pour une situation de chute des prix sur le marché mondial. C'est-à-dire que on a mis en place un système pour dire si les prix chutent sur le marché mondial, on peut protéger le pouvoir d'achat des producteurs, ce qui est très bien. Mais c'était dans un contexte aussi où il y avait beaucoup plus de risques que les prix chutent. Là, on est dans un contexte où il y a beaucoup plus d'opportunités en fait que les prix augmentent en raison de plusieurs facteurs. Hein. Les questions climatiques qui font que la production de cacao est de plus en plus moins rentable. Il y a la question aussi des législations qui rentrent en vigueur. Nous-mêmes, la Côte d'Ivoire et le Ghana, on a mis en place la norme ARS 1000, qui est une norme très importante sur la durabilité du cacao, qui va fait que le cacao va être produit d'une certaine façon qui va faire qu'on aura du cacao de qualité et donc parfois la qualité ne rime pas avec la quantité, donc on aura peut-être moins de cacao mais on aura plus de cacao de qualité, ce qui est très bien. Mais il y a surtout le règlement européen qui rentre en vigueur bientôt et ce règlement va limiter la création de nouvelles plantations de cacao en déforestant, en détruisant de nouvelles forêts.
C'était à l'instant Bakary Traoré, membre de la plateforme ivoirienne pour le cacao durable. Et puis le REP Massy, dans le cadre de ses actions dans la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre, en Côte d'Ivoire vient d'organiser un panel amont sur l'insuffisance rénale, une maladie pratiquement méconnue du grand public et qui, de nos jours, est de plus en plus courante. Le point avec notre correspondant dans le Tonkwi, Stéphane Adams.
Hommes de médias et population dans toutes ses composantes étaient présents à cette conférence pour écouter l'exposé du professeur Yao Kwame Hubert sur l'insuffisance rénale.
L'insuffisance rénale, c'est l'incapacité du rein à assurer les fonctions. Cette insuffisance rénale va entraîner donc une accumulation de déchets dans le sang, donc de la créatinine dans le sang. Et c'est lorsque l'épuration, la fonction d'épuration et de filtration est touchée qu'on parle d'insuffisance rénale. Sinon, on peut avoir ce qu'on appelle la maladie rénale sans insuffisance rénale. En ce moment, c'est les anomalies urinaires que j'ai évoquées plus haut, l'albuminurie ou l'hématurie qui sont présentes dans les urines sans qu'il y ait une anomalie de la fonction d'épuration.
Ensuite, il relève ce qui suit.
Est-ce que l'insuffisance rénale peut être consécutive à une maladie maltraitée? Oui, le paludisme maltraité peut être la cause, par exemple, d'une insuffisance rénale. Un mal de gorge, une angine maltraitée peut être la cause de maladie rénale ou même d'insuffisance rénale. L'hypertension artérielle maltraitée aboutit à une maladie rénale, ainsi que le diabète, le VIH et tout ça.
Cet élève dit prendre la pleine mesure des enseignements reçus. Dion Sephora.
Ce que je ne savais pas sur la maladie de l'insuffisance rénale, je sais ça aujourd'hui. Donc je vais faire attention à tout ce que je mange. Je lui dis merci pour son exposé.
Notons que l'insuffisance rénale reste tout de même un problème de santé publique. Stéphane Adams, Man, Radio de la Paix.
Dans l'actualité sur le continent africain, les régions somaliennes du Puntland et du Somaliland ont refusé ce vendredi la fermeture des consulats éthiopiens sur leur sol, ordonnée la veille par le gouvernement fédéral qui accuse Addis Abeba d'interférer dans ses affaires intérieures. La Somalie a ordonné pour rappel hier jeudi le départ dans les 72 heures de l'ambassadeur d'Éthiopie et a rappelé son propre ambassadeur à Addis Abeba pour consultation. Mogadiscio a également annoncé la fermeture d'ici une semaine des consulats éthiopiens dans les régions septentrionales du Puntland et du Somaliland. On en vient à l'invité de la rédaction et ce vendredi, il s'agit de Ndiaga Sylla, l'expert électoral sénégalais. Avec Constant Maillet, il parle de l'élection du plus jeune président du Sénégal, Diomaye Bassirou Faye, âgé de 44 ans, et de la nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Entretien à suivre maintenant.
Bonjour Monsieur Ndiaga Sylla.
Bonjour.
Vous êtes expert électoral. On va parler de l'investiture du nouveau président sénégalais, élu à 44 ans au Sénégal. Quel commentaire cela vous inspire?
Nous avons tous été fiers d'assister à la cérémonie d'investiture du plus jeune président de la République de l'histoire du Sénégal, qui a été élu avec la manière pour dire que justement il a été plébiscité. Et la jeunesse effectivement s'est mobilisée et a pu effectivement donc croire au projet, à la vision qui leur a été vendue depuis pratiquement 3 années.
Est-ce que cela ne ressemble pas à un vote sanction pour l'ancien président Macky Sall?
Le vote a été utile. Certains même le qualifient de référendum parce qu'effectivement, tous les analystes ou la plupart en fait, d'entre eux prévoyaient en fait, donc, un second tour au regard justement des forces en présence parce que nous avons connu des candidats ou des partis qui ont été assez représentatifs et qui pouvaient effectivement influer sur l'issue du scrutin pour nous mener au second tour. Mais aujourd'hui, je pense que les situations que nous avons vécues depuis les événements de mars 2021, les violences, les arrestations, ont fini effectivement par insuffler un ras-le-bol en fait, donc, des électeurs sénégalais. Et surtout, je pense que ce qui a été l'élément perturbateur, c'est l'interruption du processus électoral à la veille justement de la date initiale de l'ouverture de la campagne électorale. Au point que les citoyens se sont dit effectivement qu'il faut aujourd'hui ne plus offrir en fait, donc, le prétexte aux tenants du pouvoir pour donc, détourner les suffrages. Et je pense que cela les a poussés au-delà justement du fait qu'ils croient à la rupture donc prônée en fait donc par la coalition Diomaye président. Je pense qu'ils ont voulu de manière ferme montrer qu'ils veulent la rupture.
Quelles peuvent être les priorités de ce nouveau président à la tête du Sénégal?
Bon, je pense que sur ce point-là, nous les attendons sur la base justement des axes qu'ils ont déclinés dans le programme. Déjà en avant-première, le président nouvellement donc installé a annoncé qu'il va revenir pour insister sur l'affaire donc de la justice. Il va faire en sorte que l'indépendance de la justice soit assurée. Il va faire en sorte que le Sénégal reste un état démocratique et aussi il a insisté effectivement sur la nécessité effectivement de réduire les fractures sociales. Donc on peut espérer que d'ici quelques jours, que des mesures justement d'allègement en fait donc du panier de la ménagère puissent donc prendre effet. passé. Mmh. Évidemment, il va falloir, pour faire une refondation, envisager en fait donc les réformes institutionnelles. Nous ne savons pas encore quelles seront justement les stratégies ou les voies. En tout cas, j'estime que pour faire les réformes donc approfondies annoncées, il va falloir peut-être envisager l'organisation d'un référendum.
Dans la foulée, le nouveau président Diomaye Faye a nommé Ousmane Sonko, son alter ego politique. Il a nommé Premier ministre du Sénégal. Alors, on imagine un tandem. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce tandem?
Alors, il y a quelques jours, j'ai publié un texte pour dire effectivement qu'il s'agit d'un duo d'espérance. D'un duo d'espérance sur un marque d'espoir pour permettre effectivement, au-delà de certains qualifiés peut-être comme étant justement ou pouvant inspirer éventuellement un dualisme au sein de l'État, moi je considère que vu leur histoire, vu le projet qu'ils ont partagé, qu'ils ont initié ensemble, les brimades qu'ils ont subies, vu leur amitié, moi je pense que leur duo devrait être considéré comme étant une force qui empêcherait effectivement l'exercice de l'un ou de l'autre du pouvoir solitaire. Parce que chacun effectivement veillera, c'est comme une sorte de sentinelle à ce que l'autre ne dévie pas effectivement du chemin qu'ils se sont tracés. C'est pourquoi d'ailleurs la nomination elle est à la fois légitime et logique parce que c'est les gens qui maîtrisent en fait donc leur projet pour sortir en fait donc le Sénégal d'un certain nombre de reculs qu'on a connus durant les dernières années, surtout sur le plan démocratique.
Est-ce qu'il ne faut pas craindre que ce duo vole en éclats au fil du temps?
Au contraire, moi je pense que ce duo vit son histoire parce qu'il est composé quand même d'abord de deux amis qui ont été en fait donc ensemble au niveau des impôts et domaines. Il faut même comprendre que l'actuel président a un de ses fils qui porte le nom de Ousmane Sonko et je pense que lui-même il est conscient du fait que c'est Ousmane Sonko qui est l'initiateur et porteur du projet et en un certain moment on a fait obstacle à sa candidature. C'est pourquoi lui il a pensé à un plan B et je pense que c'est ce plan B par le choix porté sur le président Diomaye Faye qui a marché. Donc tout le monde en fait devrait commencer par Diomaye, et je pense qu'il en est conscient, le président Diomaye, que effectivement Ousmane Sonko a joué un rôle décisif sur l'élaboration du projet, mais aussi sur justement la conquête du pouvoir. De ce point de vue, je pense que ce qui les lie est plus important que ce qui va en fait, que ce qui risque de les désunir. De ce point de vue, moi j'ai espoir qu'ils seront conscients qu'il va falloir effectivement jouer sur cette complémentarité, que l'espoir suscité par cette victoire soit donc matérialisé.
Ndiaga Sylla, vous êtes expert électoral sénégalais, je vous remercie.
Bien, merci.
C'était l'invité de la rédaction aujourd'hui, l'expert électoral sénégalais Ndiaga Sylla. Il répondait aux questions de Constant Maïlé, un entretien qui met un terme à notre édition dont voici le rappel de l'essentiel. Les parlementaires ivoiriens ont reçu hier de leur homologue français, allemand et de l'Union européenne deux guides pratiques sur l'élaboration des propositions de loi et sur les procédures d'amendement. Vous avez eu les réactions de quelques sénateurs et députés ivoiriens sur l'importance de ces guides. Dans l'actualité sur le continent, les régions somaliennes du Puntland et du Somaliland ont refusé ce vendredi la fermeture des consulats éthiopiens sur leur sol, décidée par le gouvernement fédéral hier jeudi. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, Mel Emmanuel pour la revue de la presse ivoirienne.
Bonjour à toutes et à tous. Les échanges entre